RCF.
Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Si vous habitez en Corse ou dans le sud de la France, vous avez certainement déjà entendu l'expression fraté. Alors fraté, ça veut dire frère, pote ou ami. Et c'est une expression qu'utilisent beaucoup les jeunes ici et là en France. Fraté, c'est aussi le nom d'un podcast du Secours catholique qui raconte la vie fraternelle et mouvementée d'un accueil de jour. Dans cette fiction, on entend les bénévoles, les habitants d'un quartier, les personnes accueillies qui se croisent, s'entraident et construisent ensemble un monde plus juste pour tous. Et RCF est partenaire du Secours catholique pour la diffusion de ce podcast que vous pouvez écouter dès maintenant sur rcf.fr, porté par les voix de Manu Payet, de Mélanie Bernier ou de Zabou Bretman. On en parle ce matin dans Je pense donc j'agis et on verra dans la seconde partie comment fonctionnent les accueils de jour du Secours catholique. Et là aussi, vous entendrez l'engagement très important des bénévoles. Ce sera à 10h. Soyez les bienvenus dès maintenant avec vos témoignages et vos réactions. Comment, pour vous, parler de la pauvreté aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que la culture et les artistes peuvent aider à changer le regard? On vous attend au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23 et vos messages par mail à l'adresse direct@rcf.fr.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et comme tous les jeudis avec Stéphanie Gallet, rédactrice en chef culture et société. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. Eh bien ce matin, vous l'avez dit, hein, on s'enthousiasme donc pour un podcast Fraté, créé par le Secours catholique, un podcast qui raconte le quotidien d'un accueil de jour dans une petite ville de France. La vie à l'Esquif, hein, c'est le nom de cet accueil, c'est un concentré des difficultés que rencontrent un grand nombre d'habitants de notre pays. Mais n'allez pas croire que ce que vous allez entendre est triste ou déprimant. Bien au contraire, il y a de la joie dans cette affaire. Alors parfois c'est vrai, hein, c'est l'énergie du désespoir, mais le plus souvent c'est l'espérance que donne la confiance en l'autre. Alors vous savez Melchior, dans vos omissions avec Anne Kerléo, vous évoquez souvent la nécessité d'un nouveau récit pour affronter le réchauffement climatique. On peut entendre dans ces émissions que pour changer les esprits et construire ce monde de demain, il faut changer les imaginaires. Eh bien voyez-vous Melchior, je crois qu'il en va de même face aux inégalités sociales. Cet effort de créativité, d'imagination, nous en avons aussi besoin pour changer de regard sur les personnes qui vivent dans la pauvreté et pour ainsi construire ensemble une société véritablement fraternelle. Alors, bravo au Secours catholique d'avoir franchi le pas et de nous offrir cette fiction sonore qui permet de remettre un certain nombre de choses en place.
Et pour parler de ce podcast dans cette première partie, Stéphanie, on a le plaisir d'accueillir trois invités.
Allez, je vais commencer par vous, Sandrine Verdelan, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes responsable de la communication externe du Secours catholique, c'est comme ça qu'on dit?
Exactement.
Mais ici, vous serez celle qui a eu l'intuition de ce podcast et vous allez nous en parler largement dans cette émission. Merci Sandrine d'être avec nous. Autre invité dans cette émission, Ismaël Jules, bonjour.
Salut fraternel.
Salut fraternel. Alors vous êtes l'auteur du podcast, c'est vous qui avez posé les mots, raconté cette histoire, mais juste avec vous, ça n'aurait pas fonctionné. On avait besoin aussi de magiciens du son. Thibaut Potvin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes producteur chez Wave Audio. Wave Audio, c'est un studio de podcast. Et c'est vous, avec vos petits camarades, qui avez réalisé ce podcast. On le verra avec un recours à un certain nombre de stars. Voilà, Melchior, trois invités, Sandrine Verdeillant, Thibaut Potvin et Ismaël Jude.
Avec vos témoignages, vos réactions en direct au 04 72 38 20 23. On va bien sûr avoir l'occasion d'en écouter un extrait, Stéphanie, dans un instant.
Oui, mais d'abord, je vais leur poser une première question à chacun. Ismaël Jude, je commence par vous. On est où quand on est à l'Esquif?
C'est un lieu d'accueil fictif, donc ça rejoint votre introduction, inspiré de plusieurs lieux du Secours catholique qu'Alexandre Leneau, le co-auteur de cette série, et moi-même, nous avons visité. Donc plusieurs lieux avec des missions très différentes les unes des autres, à Paris, à Toulouse, à Pamiers, avec différentes missions. Et avec ces différents lieux et les personnes que nous avons rencontrées, nous avons imaginé un lieu fictionnel et qui permet d'aborder avec humour toutes ces thématiques de la grande pauvreté.
Alors pour vous, Thibaut Potvin, qui avez imaginé l'univers sonore de cet esquif, qu'est-ce qu'on entend à l'esquif? Il y a beaucoup de bruit?
Il y a effectivement beaucoup de bruit. Alors, je précise, je ne l'ai pas imaginé tout seul. On a notre job en tant que producteur, c'est d'abord de rassembler tous les autres talents qui vont mettre en onde les mots des auteurs, d'Ismaël et d'Alexandre. Et donc, notamment Charlène Nouilloux, la réalisatrice, qui a fait un travail qui, je crois, sans forfanterie, a été jugé par beaucoup comme assez extraordinaire. Et elle a l'habitude de jongler avec beaucoup de matériel. Et là, elle a eu la possibilité d'utiliser aussi des sons qu'on a fait capter par un reporter, puisqu'on a aussi fait des petits reportages, des petits documentaires en complément de la fiction. Et donc, elle a joué avec tout ça. Et c'est ce qui fait que l'immersion qu'ont vécu nos auteurs se transforme, si on y est parvenu, en une immersion pour tous ceux qui écoutent le podcast dans ce lieu.
Sandrine Verdeillant, est-ce qu'on peut dire qu'on est bien quand on est à l'Esquif ?
J'espère qu'on est bien quand on est à l'Esquif. L'objectif pour nous, c'était de montrer que ces lieux, c'était des lieux de rencontre, en fait, entre des personnes qui, au départ, peut-être ne partageaient pas grand-chose et qui, en se rencontrant, arrivaient à créer des liens, arrivaient à créer de nouvelles amitiés. Voilà, c'était de montrer ces lieux de vie, en fait, où on a beaucoup, on en parle beaucoup pour parler des solutions, pour parler des problèmes que rencontrent les personnes. Là, l'objectif, c'était de parler des rencontres.
On y va, Melchior ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah bah bien sûr qu'on y va. On écoute.
Mimi, passe-moi le sucre, tu veux ?
Ah, je le trouve pas, bordel.
Bonjour.
Bonjour, monsieur. Entrez. C'est Romain, là, qui s'occupe du petit déjeuner aujourd'hui.
Bonjour, monsieur. Je vais vous demander de mettre du gel et de... L'Esquif, bonjour. Non, madame. Il faut venir nous voir. Oui, madame. Non, madame. On accueille tout le monde. Ici, on pratique l'accueil inconditionnel. Oui, oui, inconditionnel. Ben, ça veut dire tout le monde tout le temps. Enfin, pas tout le temps, on ferme à 18h. Mais oui, vous pouvez venir, vous êtes la bienvenue. Aux horaires d'ouverture, quoi.
Romain, il y a une dame, là, qui fait des grands gestes dehors.
Ah oui, merci, Myriam. Vous avez pas vu Gabriel ?
Non.
Mais
où est-ce qu'on range les dons de nourriture, là ? Il y a une dame du Rotary, dehors, qui en a plein son coffre. Elle dit qu'elle a vu avec Gabriel.
Oui, oui.
Oui ?
Tu peux aider Romain à ranger, mon grand, s'il te plaît ?
Oui.
Eh, Romain, il y a Shiva qui veut te voir. Il t'attend dans la cuisine.
Ah, ok. Merci. Bonjour, monsieur. Vous devez être Shiva ?
Non, je m'appelle Sanjeevan Desunadan. Tu dois voir Gabriel.
Alors, Gabriel n'est pas là. Mais ici, nous pratiquons l'accueil inconditionnel.
J'ai eu la police, ce matin.
La police est venue chez vous ?
Non, pas chez moi. Contrôle des papiers.
Ah, Romain, il y a un type à l'entrée. Je crois que c'est pour le gaz. Il veut voir Gabriel.
Oui, mais Gabriel n'est pas là.
Ben, je sais, ça, que Gabriel n'est pas là. Mais faut que t'ailles voir quand même, je crois.
Tu crois ?
Oui, je crois.
Il faut trouver Gabriel.
Je suis bien d'accord.
Parce qu'à cause de police, moi, retard. À cause de retard, j'ai perdu ma travail.
Mais je suis sûr qu'on va trouver une solution.
Bonjour, monsieur.
Oui.
J'ai un coupé de gaz.
Oui.
Oh, c'est qui m'a piqué mon croissant, là ?
C'est bien ici, ni pute ni soumise.
Oui.
Quoi ?
Bon, alors, attendez, on se calme là, tous, hein ? Pas du tout. Non, c'est pas du tout ici, ni pute ni. Ici, c'est l'Esquif. Et on pratique l'accueil inconditionnel.
Attends, Romain, souffle un coup. Là, voilà, assieds-toi. Janie va voir avec le monsieur des putes. Et puis moi, je vais parler à la dame dehors. Bah, de toute façon, Gabriel va bien finir par arriver, non ?
Oui.
Tu vois, oui, oui, d'accord.
C'est ce qu'on avait dit, Stéphanie, c'est mouvementé, hein.
Ouais, je crois qu'il y a eu 4 gros mots, hein. Faut faire mettre des pièces dans la boîte. Ismaël Jude, c'est vous qui avez écrit ça, vraiment ?
Oui, oui, on l'a coécrit avec Alexandre, comme je disais tout à l'heure. Oui, oui.
Mais c'est, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça.
Ah, quasiment. Il y a cette énergie. Et puis là, c'est ce qu'on appelle une scène d'exposition. Il y a presque tous les personnages dans cette scène qui sont introduits. Et donc, on découvre une galerie de personnages qui vont ensuite interagir. Il manque évidemment Gabriel, que tout le monde attend, qui va arriver bientôt. Et puis, il y a le personnage principal par lequel on entre dans cet Esquif, qui s'appelle Pauline, qui est jouée par Mélanie Bernier, et qui va découvrir ce monde-là. Et ce que disait la réalisatrice, c'est qu'elle avait voulu imaginer cet Esquif, ce lieu qui est inspiré de lieux très réels, comme un peu l'entrée d'Alice au Pays des Merveilles, comme si elle entrait dans un monde merveilleux, en fait le monde de la fraternité, envisagé comme ça, comme oui effectivement un langage un peu fleuri comme ça, et aussi quelque chose de très humain quoi dans les relations avec la vieille dame qui qui attend son café, qui commande tout, un type qui ne dit que oui, donc les autres appellent oui, un autre personnage qui râle tout le temps, et puis le petit étudiant à l'accueil qui est un peu dépassé par cette agitation, et l'accueil inconditionnel.
Alors l'accueil inconditionnel, c'est une expression au Secours catholique ou c'est inventé pour la fiction ?
Ah non, ça c'est vraiment une expression au Secours catholique. Une expression à laquelle on tient effectivement parce que parce que comme on s'appelle Secours catholique, on est toujours soupçonné de ne pas accueillir tout le monde. Donc voilà, c'est effectivement quelque chose auquel les bénévoles tiennent beaucoup, qui est de dire, c'est pas parce qu'on s'appelle Secours catholique qu'on accueille que des catholiques. Mais au contraire, on est accueillant pour tout le monde, on est vraiment sur cette universalité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut répéter assez fréquemment. Voilà, et que c'est toujours il y a toujours un petit préjugé contre lequel on doit se défendre aussi de ce côté-là. Et donc, on est très heureux d'avoir retrouvé cet accueil inconditionnel, un peu comme
une sorte de mantra qu'on répète tout au long de la
fiche. Un refrain qui revient fréquemment et qui est assez intéressant parce que je pense que justement, l'étudiant, il exprime ce que certains vivent. C'est-à-dire, ils doivent expliquer pourquoi ils sont engagés au Secours catholique.
Donc. Ce qu'on voit aussi, on leur dira peut-être, on n'est pas béni oui justement dans c'est l'accueil inconditionnel, c'est pas tous les jours simple, la vie n'est pas un long fleuve tranquille à l'esquif, on le découvrira. Ce que vous disiez Ismaël juste, c'est qu'on arrive à l'esquif avec le personnage Pauline. De Pauline qu'on a découvert dans une séquence juste avant.
La toute première scène,
Pauline, vous nous la présentez ?
Alors Pauline, c'est un peu le personnage auquel l'auditrice lambda va s'identifier. Parce que c'est quelqu'un de la classe moyenne qui découvre la pauvreté pour la subir et qui va glisser dans ce monde et rencontrer tous les problèmes que ça va lui poser. C'est la maman de deux enfants, mère célibataire, avec deux pères différents. Et donc, c'est vrai que c'est un personnage qui a cette fonction-là. De nous faire pousser la porte et d'entrer dans ce monde. Et elle-même, elle arrive avec des préjugés. Donc ça nous intéressait aussi de montrer les préjugés qu'on peut avoir à l'égard des gens qui sont dans la pauvreté. Elle-même arrive avec ses préjugés en disant « Mais moi, j'ai rien à voir avec ces gens-là. » Et en fait, si, elle a à voir puisqu'elle est exactement dans cette situation. Donc c'était une bonne façon de faire découvrir... aussi nous-mêmes, les deux co-auteurs, je pense que ça nous sert aussi à nous mettre dans la peau de quelqu'un. Et donc, c'est la porte d'entrée. Vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre dès la deuxième scène. Et c'est un peu ça. C'est une porte d'entrée pour éveiller la curiosité, le sens de l'hospitalité aussi de chacun d'entre nous, auditeurs, auditrices.
Un petit bobo de vin, c'est Mélanie Bernier qui incarne Pauline. Elle a tout de suite trouvé sa Pauline ?
Je ne vais pas m'exprimer à sa place, mais nous, on a l'impression qu'elle l'a trouvé parce que le personnage remplit son rôle de prendre l'auditeur par la main et de l'emmener dans ce chemin. Et ce qui est le but aussi de ce podcast, de ce changement de regard qu'elle opère sur cet environnement, sur son propre parcours à elle. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est réussi. Et ça amène aussi sur un autre sujet qui est pour nous, qui est une belle surprise dans le projet de Fraté. C'est ces énergies qui ont été fédérées par le Secours catholique, puisqu'on a construit le casting avec le Secours catholique, qui savait, qui connaissait des gens, des talents, qui allaient être intéressés de servir ce propos. Et ça a énormément contribué à la réussite de ce podcast.
Moi, je la trouve bouleversante, cette Pauline, donc cette maman célibataire avec un ado qui comprend très bien ce qui se passe, et puis une petite fille qui est l'enjeu de tractation avec le papa, une maman qui glisse, il y a des questions d'alcool, etc., et qui veut se relever. Il y a beaucoup de femmes comme ça dans les accueils ?
Oui. On a choisi ce personnage cette porte d'entrée par une mère de famille parce que c'est effectivement le genre de personne qui pousse la porte des accueils du Secours catholique. Et c'est aussi le genre de personnage et de personne qui touche les autres. Et c'était important pour nous parce que ce podcast, il est aussi là pour changer le regard sur les personnes en précarité. Et Pauline, elle arrive avec toutes les failles et toutes les forces d'une mère de famille. C'est-à-dire les failles parce qu'elle s'inquiète beaucoup, elle doit trouver des solutions très rapidement parce qu'elle a justement deux enfants à charge. Et d'un autre côté, c'est sa force aussi, ses enfants qui vont lui permettre effectivement de se relever et de trouver les solutions. Et c'était... voilà, c'était très important pour nous que ce podcast, il soit à la fois évidemment une fiction, parce que voilà, c'est l'objectif, c'est d'émouvoir, de toucher, de faire rire.
On reviendra sur le choix de la fiction.
Voilà. Mais et c'est aussi de donc voilà, Pauline, pour nous, c'était vraiment très important que ce soit une femme, une mère de famille, et que ce soit un personnage que les bénévoles rencontrent déjà au quotidien, voilà, et qui permettent à chacun de s'identifier, ce qui est effectivement l'objectif.
Donc il y a Pauline, mais j'allais dire, il y a surtout Gabrielle, qu'on attend hein, dans ce qu'on a écouté tout à l'heure. Alors Gabrielle, c'est une femme,
hein, c'est une femme,
deux LE, et c'est un peu la classe incarnée, non?
Ah oui, bah, c'est Zabou Breitman
voilà,
dans la distribution.
Déjà.
Donc voilà, ça donne un peu le gabarit. C'est une ancienne publicitaire, ça peut paraître étonnant, elle a eu une carrière comme ça, puis sur le tard, elle a décidé de s'engager, et donc elle dirige ce lieu. Avec une certaine poigne, c'est ça, et avec des partis pris, et puis la relation Pauline-Gabrielle sans raconter toute l'histoire, mais elle va se déployer avec des hauts, des bas, et puis elles vont finir par se retrouver autour de la musique aussi, hein, une place dans la série qu'on a voulu accorder à la musique, à la chanson. Non seulement parce que on avait entendu dans les lieux qu'on a visités les gens chanter, enfin on les a pas entendus chanter, mais ils nous ont expliqué qu'ils chantaient, et on s'est dit que c'était une matière très très peut-être on pourra
on y reviendra
y
peut-être
revenir, mais très émouvante quoi le biais de la chanson
Moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le personnage de Zabou Breitman, Raphaël, c'est que Gabrielle, c'est que c'est la patronne, donc rien ne peut se faire sans elle, etc. Donc une femme forte, avec un grand charisme.
Oui.
Et en même temps, on va découvrir, elle a aussi une vie à l'extérieur, comme chacun. Elle porte aussi un certain nombre de valises plus ou moins lourdes. Et un mari en particulier.
Bien sûr, un mari, un amour ancien qui lui reste en tête. Évidemment, tout le monde a des failles. Il faut que les personnages aient des failles, sinon on est dans un dessin très schématique, quoi. Donc, pour que ça ressemble un peu à quelque chose qui va nous toucher et nous déplacer nous-mêmes, il faut que les gens soient un peu ambivalents. Voilà.
Quand vous avez créé Gabriel, vous saviez que ça allait être Zabou Breitman?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non. Aucun des personnages, on n'avait pas de... Non, on savait pas qui ce serait. Et les deux sont bien écrire en sachant que ça sera destiné à quelqu'un. Ça transforme forcément l'écriture. On se dit, tiens, même le phrasé, etc. Mais ne pas savoir, c'est bien aussi, parce que du coup, c'est un pur personnage qui, dans un deuxième temps, est incarné par une actrice, en l'occurrence. Et alors là, c'est une surprise magnifique quand le jour où on entend la voix... de tel et tel acteur, là la distribution est remarquable, très très émouvante, avec le comique quand il faut qu'il y ait du comique, avec
la gravité l'émotion, etc.
Et donc on a écrit sans savoir qui, il y avait des noms qui circulaient, mais c'était pas, enfin de toute façon on s'en est pas tellement soucié, parce que c'est pas le, il faut écrire quoi.
Thibaut Potvin, quand on a Zabou Breitman qui arrive dans le studio, Tout le monde s'arrête. Comment ça se passe? Elle est très simple. Elle est dirigée à Zabou Breitman. Ça se fait facilement.
Alors c'était pas l'ambiance. On a d'abord, c'était toute une équipe de professionnels. On avait quand même su Manu Payet et Mélanie Bernier, et puis d'autres comédiens qui sont aussi Erwan Crenu. Une magnifique casting de gens qui sont des pros, certains s'étaient déjà croisés, et puis c'est devenu une famille. Il y a vraiment un esprit de famille qui s'est créé, et il n'y avait pas de de ce genre de barrières, parce que c'est des professionnels, parce que c'est des gens que voilà ça, et je pense que ça s'entend aussi. Il y a vraiment ils étaient tous engagés dans le projet, ils sont pas venus juste là faire une pige. Tout le monde a adhéré au projet, aux propos, et ça c'est important et on pense que ça s'entend.
Ce dont témoignent tous les comédiens et les comédiennes avec qui j'ai parlé, c'est qu'il y a une ambiance collective comme ça, une effervescence un peu comme une chorale qui répète ensemble, même tout le monde était vraiment ensemble. Il faut rendre grâce au travail de la réalisatrice, c'est vraiment
Charlène.
Bon, Sandrine Verdaderlé, ils sont en train de nous dire qu'en fait, voilà, ils avaient ces comédiens qui sont des très grands comédiens et en fait, c'était tout à fait normal. Hein, ils auraient pu avoir un intermittent du spectacle tout simple, inconnu, ça aurait fait la même chose quand même.
Bah oui,
je pense qu'au Secours catholique, quand on sait que Zabou Breitman, Manu Payet, Mélanie Bernier vont venir,
on était très heureux parce qu'en fait, l'objectif, alors c'est vrai que on parle de Zabou Breitman, c'était quand même assez impressionnant de l'avoir joué Gabrielle parce qu'elle a quand même des scènes. Alors, il y a eu 3 jours d'enregistrement où évidemment les auteurs, les acteurs, le réalisatrice, tout le monde vit ensemble, donc c'est assez impressionnant. Et c'est vrai que quand elle joue des scènes, il y a des scènes très fortes de Gabrielle dans le podcast. C'est assez impressionnant. Et il y a d'autres scènes, effectivement, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Souleymane aussi, qui est extrêmement important.
Voilà.
Lui aussi, quand il joue son rôle, c'est impressionnant. Donc voilà. Et nous, on est très heureux d'avoir eu des grands comédiens, parce que ça permet d'incarner les choses de la meilleure des manières. Gabrielle, elle joue une bénévole, donc vous imaginez les bénévoles du Secours catholique être incarnés par Zabou Breitman, c'est quand même très sympa. Et puis, ça permet de faire connaître le podcast aussi, et ça permet de passer des barrières. C'est la notoriété des acteurs, et notamment par exemple de Manu Payet, qu'on n'attend pas obligatoirement sur ce type de format, permet de casser les barrières et d'aller toucher des personnes qui s'intéressent pas à ces sujets au départ. Donc pour nous c'était extrêmement important et ça donne une qualité incroyable et une liberté aussi à la réalisatrice, je pense, qui du coup a pu se permettre beaucoup de choses. Elle avait des Stradivarius à sa disposition, donc elle en joue merveilleusement bien. Mais c'est vrai que
C'est toute une équipe, hein, franchement.
Thibaut Baudouin, vous nous racontez, parce qu'on vient de nous dire 3 jours de tournage, comment ça se passe le tournage d'un podcast?
Il y a un énorme travail en amont qui peut s'avérer assez ardu parce que pendant 3 jours on ait tous ces gens-là qui sont dans la même pièce au même endroit.
Ça n'a rien de rien parce qu'ils sont tous engagés sur d'autres tournages.
Bien sûr, notre podcast était important pour eux, mais c'était pas. Ils ont quand même d'autres engagements parfois majeurs. On parle Manu Payet, c'est quand même quelqu'un qui animait une matinale, donc c'est un boulot très lourd, très prenant, très fatigant. L'énergie qu'il a consacrée à frater nous a tous bluffés, mais c'est le cas des autres aussi. Donc en amont, on doit aligner les agendas pour que tout le monde puisse être au même endroit pour ça. Et ça, c'est un boulot très compliqué. Et ensuite, dans ces 3 jours, il faut articuler le planning des enregistrements pour que tout le monde puisse, on va pas demander ni aux uns ni aux autres d'attendre d'avoir une scène à 8h du matin et une autre à 21h. Donc il faut que tout ça soit bien calé pour que personne n'ait l'impression de perdre son temps. Et donc ça, c'est tout le travail qu'on fait nous en production en amont.
Donnez-nous à voir, sinon on est dans un studio, il y a des pupitres, c'est ça?
Absolument. Pour voir, c'est très simple, vous pouvez aller sur YouTube ou sur le site, je crois que vous l'avez mis sur le site de la RCF, mais il est aussi sur le site du Secours catholique. On a tourné un making-of où on voit, je pense qu'il a été filmé avec beaucoup de sensibilité. On voit bien, il y a un peu des temps morts, il y a des moments d'émotion, il y a la fraternité, quoi, aussi. Il y a un peu l'impression d'être dans un sous-marin quand même, enfermé.
En immersion,
On voit pas trop le jour. Et puis, on est concentré sur ce travail. J'ai pas envie de trop détruire la magie parce que quand on écoute avec tout ce travail que vous avez évoqué de décor, on a l'impression d'être à l'esquif. Mais c'est vrai que
la
réalité,
c'est un studio,
comme un peu ici, moins joli et moins belle vue. Il y a le pupitre, les micros, et puis il y a Charlène qui réalise et qui dirige la petite troupe pour faire ce qu'elle a dans l'oreille et les amener là où elle veut les amener.
Alors, Pour le coup, Charlène, elle est vraiment la metteuse en son. C'est-à-dire qu'on a des metteurs en scène quand on est sur une scène de théâtre. Et là, vraiment, c'est une metteuse en son. Donc, elle dirige vraiment les comédiens.
On la reprend, c'est ça?
Ouais, voilà, on la reprend. Celle-là, je la vois comme ça. Est-ce que tu peux réagir à tel ou tel... Voilà. Et en fait, ce qui était formidable dans ce studio, c'est qu'effectivement, tout le monde était en cercle. Tous les comédiens qui jouaient ensemble, donc les scènes sont jouées, j'allais dire, comme un travelling.
Et on n'est pas assis à une table comme nous, hein. on est debout
devant un pupitre, comme si vous étiez...
Un peu comme le doublage.
Un musicien, en fait. Hein.
Un peu comme le doublage de film.
Bah, il faut respirer, quoi. Ouais. C'est la colonne d'air. On joue pas tellement assis. Enfin, sauf... Il faut être debout, quoi.
Melchior,
on
va écouter de la musique ou on commence par la promotion?
Plutôt les promotions et puis on écoute la musique.
Alors les promotions,
après.
Mais après, alors vous nous redonnerez la parole pour qu'il nous explique pourquoi on écoute Françoise Hardy.
Et on parle d'un podcast depuis le début de cette émission, un podcast qui s'appelle Fraté, réalisé par le Secours catholique. RCF est partenaire de la diffusion. Vous pouvez d'ailleurs écouter ce podcast dès maintenant sur rcf.fr. On continue d'en parler toujours avec nos invités dans un instant et vos réactions, vos témoignages au 04 72 38 20 23. À tout de suite. Il est presque 9h30 sur RCF et vous l'avez dit Stéphanie, on va écouter une chanson, pas n'importe laquelle, hein. Françoise Hardy, Le temps de l'amour.
Pourquoi cette chanson? Je vais me tourner vers un des auteurs, hein, Ismaël Jude. C'est vous qui avez choisi les chansons qu'on peut entendre. Et là,
ouais.
Françoise Hardy, on ne peut pas donner toutes les chansons, je trouve qu'il faut en laisser.
Ouais, il faudra écouter la scène à la fin de l'épisode 2 pour comprendre. C'est la première scène où la musique intervient. Comme ça, elle accompagne une scène poignante, ouais. Très émouvante. Moi, je crois que j'ai pleuré quand je l'ai entendue pour la première fois, parce que j'ai découvert le podcast.
Vous n'aviez pas assisté aux enregistrements?
Moi, j'avais le Covid lors des enregistrements. Ah. Donc, j'ai découvert le podcast, tout monté, etc. Et donc, Françoise Hardy et d'autres chansons. En fait, on les a choisies en écrivant, en se disant, on verra bien si nos amis de la production arrivent à obtenir. Et en fait, tout ce qu'on a demandé a été validé.
Parce qu'en fait,
il y a
des questions de droit, les gens ne savent pas
exactement,
nécessairement, mais
exactement.
Ça peut parfois coûter très très cher.
Quand on cite une chanson, il faut avoir l'accord de... Voilà,
et tous les artistes ont été formidables.
Françoise
Hardy a été formidable, on peut le dire.
De ses héritiers, voilà. Et donc, il y a une chanson de Françoise Hardy, il y a une chanson d'Arthur Hache qui est magnifique et qui sert à soutenir, la scène. Et là, en l'occurrence, ça fait l'objet d'un cœur un peu... Il y a un moment comme ça qui part vers l'imaginaire, quoi. En fait, il y a une scène très réelle qui se passe, mais la chanson nous amène vers un ailleurs.
Ben voilà, Le temps de l'amour. On écoute cette chanson signée Françoise Hardy. On se retrouve juste après en direct sur RCF pour parler de ce podcast Fraté du Secours catholique.
On s'en souvient. s'en souvient.
Elle a 60 ans, cette chanson. Le temps de l'amour, Françoise Hardy sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Stéphanie Gallet.
On parle de Frater, ce podcast du Secours catholique à écouter dès maintenant sur rcf.fr. On en discute avec nos trois invités, Sandrine Verdelan du Secours catholique, Ismaël Jude, vous avez participé à l'écriture du podcast, et puis Thibaut Potvin, producteur chez Wave Audio. Stéphanie, on continue?
Ouais, on a bien fait connaissance avec un certain nombre de personnages de cette aventure de l'esquif. Hein. Je voudrais qu'on parle des personnes accueillies, et il y a deux visages qui ressortent de ce podcast. C'est Mitch, qui est joué par Manu Payet, et Suleyman, qui est joué par Olivier
Dodd de Evie.
Deux visages très marquants. Alors, on commence par Mitch, puisqu'en fait, c'est la figure, j'allais dire, peut-être classique, traditionnelle des personnes accueillies dans ce chargeur d'espace. Qu'est-ce qui...
Oui, ben, on a dit tout à l'heure, Pauline, elle arrive dans ce lieu, elle fait des rencontres, en fait. C'est des rencontres qui vont la transformer. Et là, Mitch, c'est un peu le SDF vénère. C'est le SDF qui râle sur tout, qui insulte les gens, qui a des propos parfois qui peuvent nous gêner aussi, et qui se révèle aussi... alors c'est pareil, il ne faut pas divulgâcher, mais non. Qui se révèle avoir
un
moment. Ouais, un moment, il intervient avec le gamin de Pauline. Il y a une sorte de, il se reconnaît dans ce gamin, lui-même aussi un petit peu vénère vu la situation de sa mère, etc. Et donc il y a quelque chose qui se transmet entre eux dans une transmission de ce qu'on apprend dans la misère, quoi. Lui, c'est un SDF de très longue date qui dort dans sa voiture. Et qui est incarné de façon très humaine, en fait, par Payet. Et l'autre personnage,
c'est Suleyman.
Suleyman, ouais, Suleyman.
Là, il impressionne.
Ouais, Suleyman.
C'est le sage.
Ouais, c'est le gars engagé politiquement qui a vécu un long parcours de migration. Et qui est là pour remettre un peu les pendules à l'heure sur ce que c'est que ce parcours, et à quel point il vient parler pour les engloutis, en fait, pour tous les gens qui meurent dans la traversée. Et lui, qui a survécu, il peut prendre la parole pour être le porte-parole de ceux qui, malheureusement, sont décédés.
Alors, avec Suleyman, il y a un bonheur d'auteur, j'imagine, hein, parce qu'il a une langue, une maîtrise des mots qui est extraordinaire.
Exactement, ouais. On voulait... En fait, on s'est autorisé à écrire deux discours qui sont poétiques, hein, mais où on voulait vraiment lui donner la parole. Il y a deux scènes comme ça assez importantes à la fin. Je vous dis pas exactement où ça se trouve, mais plutôt vers la fin et puis plutôt vers le début. Il y a deux scènes où il a l'occasion, comme il est attaqué, où il a l'occasion de prendre la parole. Ouais, c'était ça qui nous intéressait aussi, de se dire que la misère est partagée, et que aujourd'hui sans papier dans ce pays, c'est être condamné à une misère vraiment la plus grande, quoi. Parce qu'on a rien, on n'a pas le droit de travailler.
Et c'est Mitch, c'est Suleyman, vous les avez rencontrés dans votre petit périple préparatoire?
Oui.
Où on vous en a présenté, où on vous a raconté?
Oui, on a rencontré des gens qui nous ont raconté des choses bouleversantes. On était, je me souviens, Alexandre et moi, en sortant de certains entretiens, on ne parlait plus, quoi. On se disait, on était bouche bée, quoi.
Ouais. Sandrine Verdelan.
Ouais, c'est vrai que ces deux personnages, c'est un peu les archétypes au départ. Hein. On se dit, on va rencontrer un SDF, qui traite ses guettes dans l'accueil de jour, qui critique tout le monde, et de l'autre côté, une personne migrante. Et
puis une forme de, entre guillemets, de concurrence.
Oui, il y a une vraie concurrence entre les publics, hein. C'est comme ça qu'on dit, mais c'est vrai que c'est toujours très compliqué d'arriver à faire se rencontrer des personnes qui vivent, qui sont dans la misère et qui ont besoin de l'attention des autres. Donc qui du coup peuvent la demander de façon plus ou moins sympathique. Et Mitch et Suleyman, quand Mitch voit arriver Suleyman, finalement, il se dit il est en train de prendre l'attention des autres. et du coup il s'occupe plus de moi. Mm-hmm. Voilà. Et il y a cette façon de fonctionner. Voilà. Après, il y a aussi un décalage générationnel, hein, c'est-à-dire que Mitch est un peu plus âgé que Suleyman, et c'est aussi ça qu'on va découvrir. C'est-à-dire, ce qui est intéressant pour moi aussi dans le personnage de Suleyman, c'est de découvrir que, au-delà d'être une personne migrante, d'un coup, on découvre que voilà, c'est un jeune homme qui, à l'âge qu'il a, voilà, a vécu déjà mille vies. Et mille vies qui ne sont pas toutes formidables, évidemment. Donc voilà, c'est assez touchant et ça permet, ces deux personnages permettent aussi d'incarner le propos, j'allais dire, politique du podcast, qui est aussi ce qu'on appelle le plaidoyer dans les associations, c'est-à-dire d'aller porter ces paroles à parole de ces personnes qui vivent des situations de précarité et de dire au pouvoir public, bah voilà, il faut changer les choses. Ces personnes qui arrivent chez nous, démunies, qui ont traversé des océans, elles ont peut-être le droit de travailler, d'essayer de s'intégrer dans notre société et de leur faire un peu de place.
D'ailleurs, ces pouvoirs publics, ils ont aussi un personnage dans le podcast, c'est la figure de la mère, qui est la politique qui peut parfois retourner sa veste, mais dans le bon sens, c'est ça?
Ouais, mais surtout, on voulait que cet esquif, il soit dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas en vase clos. L'esquif, il est ouvert
sur le monde.
La mère
M-A-I-R-E.
Oui, la mère de la ville. Dans laquelle est l'esquif. Et c'est important pour nous, on en avait parlé d'ailleurs avec Alexandre et Ismaël, mais il fallait que ce lieu soit ouvert. C'est-à-dire qu'il croise des habitants, qu'il croise les pouvoirs publics. Voilà. On ne vit pas en vase clos dans un accueil du Secours catholique, quel que soit l'objectif de cet accueil. Et c'est important qu'on ait cette interaction.
Alors on se moque un peu de la fonction de la mère.
Vous êtes un peu taquin.
Oui, on se moque un peu d'elle, elle est un petit peu caricaturale. Et en même temps, on a quand même essayé de lui donner un petit côté humain, même, comme à tous les autres. Quoi. Sa part humaine, mais on se moque un peu d'elle parce qu'elle est un peu prise dans... Elle parle des administrés, etc. Elle essaie de ménager ce que vont penser les gens, etc. Et, donc oui, on a un petit peu taquin avec cette figure-là, mais... tout en lui gardant un aspect humain. Je ne sais pas si elle retourne vraiment sa veste. Elle essaie de retourner sa veste au moment où elle sent le vent tourner. Et c'est ce qui la rend aussi, jusqu'à la fin, un petit peu comique. Quoi.
Thibaut Potvin ?
Oui, non, c'est une partie importante de réancrer, en fait, finalement, ça avec des choses et de connecter avec la partie, oui, politique, la partie du débat public. Parce que c'est vrai que le débat public aujourd'hui, et nous, c'est un peu le constat qu'on partageait avec le Secours catholique. C'est parce qu'on fait des podcasts de fiction, on fait aussi des podcasts avec des émissions, avec la BNF, avec la Fondation Carasso, sur plein de sujets sociaux. On accompagne beaucoup d'organisations dans le secteur non marchand, dans le podcast. Et dans le débat public aujourd'hui, on est beaucoup à penser qu'il est... Il est pollué de considérations où la solidarité, l'attention aux autres ont l'air d'être relégués derrière des égoïsmes, de la négligence, parfois peut-être même aussi une forme de violence vis-à-vis de tous ces gens qui vivent des moments difficiles. Et là, ça fait partie de la construction de cette fiction et du message qu'elle porte de dire non, c'est nous ces gens, c'est nous.
Peut-être un petit mot sur Manu Payet, parce qu'il y a beaucoup de stars, de people qui accompagnent des associations, le Secours catholique, mais aussi d'autres. Parfois, on va les chercher, et parfois, elles viennent toutes seules. Et c'est le cas de Manu Payet, on peut le dire?
Oui, on peut le dire. On a eu une chance inouïe, c'est-à-dire que Manu Payet est très sensible à ces questions de pauvreté, donc il s'informe. En plus, à l'époque, il avait une matinale sur une radio. Et il a entendu parler du rapport pauvreté que sort le Secours catholique chaque année au mois de novembre. Il a été touché par le discours et l'année où on en parlait, c'était sur l'alimentation. Et on disait qu'effectivement, il y a des gens dans ce pays qui vivent avec 2 euros par jour pour arriver à se nourrir. Ce qui est juste pas possible, en fait, hein, tout simplement. Donc il a été très touché et il nous a appelés. En fait, alors c'est là que c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'un jour, vous allez retrouver avec le numéro, avec le 06 de Manu Payet, et on vous dit, il voudrait vous aider. Donc voilà, je suis allée à sa rencontre, j'ai eu cette chance, et je lui ai dit que, enfin, je lui ai raconté un peu ce qu'on faisait, et notamment que on ne voulait plus que les personnes, le grand public, pour le dire rapidement, voient les personnes pauvres comme une liste de problèmes à régler. Et ne les voit pas comme des personnes qui ont des joies, des peines, des amis, de la famille, voilà. Et ça l'a beaucoup interrogé. Il a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je dis, on réfléchit, on voudrait faire un podcast, une fiction. Il a dit, ça c'est mon métier et ça je peux vous aider. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans l'aventure. Alors, on aurait pu dire c'est une parole en l'air, mais pas du tout. En fait, au fur et à mesure, on lui a donné les éléments du projet, on lui a donné le timing, on lui a donné le planning. Et effectivement, comme le disait Thibaut tout à l'heure, pour quelqu'un qui fait une matinale, c'est quand même beaucoup d'énergie. Et il arrivait à la fin de la matinale et il venait directement au studio enregistrer Mitch, qui a un gros rôle en plus. Donc finalement, il est venu les 3 jours. Et il s'est engagé. Enfin, si vous pouvez voir le making of sur le site web du Secours Catholique, vous verrez dans les 5 minutes Manu Payet à la baguette. Et c'était très chouette qu'il se mette au service de ce projet avec ces 2 figures féminines aussi quand même qui aussi quand on lit la fiction on voit bien qu'elle domine entre guillemets. Et il s'est mis au service de ce personnage de Mitch qui a des vraies ambivalences. On a quand même une chance extraordinaire. On dirait un peu que les planètes se sont alignées. Mais effectivement, on est très heureux de ça et ça a été une expérience formidable. Il a été fantastique et il a aussi rencontré les équipes à La Réunion, à l'île de La Réunion, dont il est originaire et autres. Donc vraiment.
Oui, c'est pas un couple comme ça d'un jour.
Non, je pense que vraiment il s'y est intéressé, il s'est dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire. Et il l'a fait à sa façon, c'est-à-dire en faisant son métier. Et du coup, ça nous rend un service immense, et notamment aussi en termes de notoriété, évidemment, pour le podcast.
Sandrine Verdelian, je voudrais qu'on revienne sur, peut-être c'est la question que j'aurais dû poser dès le début, mais je voulais peut-être d'abord qu'on rentre dans le sujet. Mais pourquoi avoir décidé de faire une œuvre de fiction, d'inventer ces personnages, de les créer, et pas de faire un reportage dans un accueil de jour du Secours Catholique? Alors on sait qu'il y a des épisodes supplémentaires, des épisodes bonus, où on va dans des vrais accueils de jour, mais... Pourquoi l'idée de la fiction?
Alors en fait, comme on le dit depuis le début de l'émission, il y a beaucoup, beaucoup de préjugés sur les personnes les plus pauvres. Et pour casser la barrière de ces préjugés, on avait besoin d'une fiction pour aller toucher des personnes qui, dès qu'on leur parle de pauvreté, détournent le regard. En fait, l'idée, c'est d'aller toucher des gens qui vont écouter le podcast parce que c'est Manu Payet, parce que c'est Zabou Bratman, parce que l'histoire est sympa, parce que Mélanie Bernier, elle a une voix formidable, et qui, du coup, vont... aller à la rencontre de ces personnages, alors qu'ils ne vont pas dans la vraie vie à la rencontre des personnes les plus pauvres, et vont découvrir qu'en fait, c'est des gens comme vous et moi, que ça arrive à tout le monde d'avoir un problème dans la vie, de glisser petit à petit, de se relever, d'avoir envie de donner un coup de main aux autres, et que c'est extrêmement aussi vivant, fraternel, et pour nous c'était vraiment important. On fait beaucoup de reportages, si vous allez sur nos sites web, si vous voyez nos publications, on a beaucoup de reportages auprès des personnes en précarité. Mais comment est-ce qu'on arrive à rendre aussi cette fraternité vécue? Ça, c'est très compliqué de rendre dans un reportage. Comment ça se fait que les gens, entre eux, il y a quelque chose qui prend comme ça et qui fait que ils sont heureux de se retrouver. Alors certes, ils sont dans la galère, il y a des moments qui sont pas faciles, mais ils sont contents de se retrouver. Et c'est ce qu'on va vivre aussi dans ces 8 épisodes de fiction. C'est-à-dire que on commence avec chacun un rôle et on finit avec des personnages qui sont heureux de se retrouver, heureux de se battre ensemble. Et ça, je pense que c'était... Il y avait que la fiction qui nous permettait de casser cette barrière-là et d'être écoutés par des gens qui, au départ, ne s'intéressent pas à ces sujets de pauvreté ou n'y sont pas sensibles directement.
Ismaël, je voudrais qu'on parle de l'écriture, parce que je pense que ça, vous êtes convaincu du bienfait de la fiction comme auteur, mais comment on fait justement pour parler de la pauvreté, pour parler, on dit plus trop ces mots-là, mais pour parler des pauvres, quels mots on utilise pour pas être dans la caricature, pour pas être dans les clichés, pour redonner toute humanité à chacun et en faire des personnes attachantes? Sans être dans l'idéalisation aussi.
Oui, c'est ça, il faut pas... Je pense que le fait d'avoir rencontré des vraies personnes nous a beaucoup nourri notre imaginaire. Après, on a inventé des personnages qui sont pas directement issus des gens qu'on a rencontrés, mais qui sont une réécriture de tout ça et qui vont piocher une expression, une façon, un phrasé à quelqu'un. Et puis, non, je pense que ce sont des êtres humains, vivants, et il faut justement, il faut écrire leur... En tout cas, on a essayé d'écrire leurs paroles comme des paroles de personnes, en fait, qui sont dans telle situation. Mais justement, pas nous dire, lui, c'est le SDF, lui, c'est le...
Ce que j'ai fait tout à l'heure, le migrant. Et...
Même si, pour résumer, on en parle comme ça. En fait, nous, quand on les écrit... on essaie justement de plus être là-dedans. Ce sont des gens qui ont une vie. Le fait de dormir dans sa voiture ne lui enlève pas son humanité. Il parle de telle façon. Alors on a essayé vraiment de caractériser des personnages. C'est-à-dire qu'ils ont des façons de parler en échangeant entre nous, Alexandre et moi. On essaie vraiment de singulariser le style de langage, quoi.
C'est aussi un exercice imposé quand on n'a pas d'image, c'est ça ?
De toute façon, c'est une chose qu'il faut faire quand on écrit des personnages, quoi.
Que ce soit théâtre, écrit un scénario pour le théâtre ou pour le cinéma, c'est différent qu'un scénario pour une création sonore, j'imagine.
Pas tant que ça.
Pas tant que ça.
Non. Je pense que ça revient même. Et donc, il fallait juste qu'ils aient une voix, mais. En fait, nous, notre travail, c'est pas du tout de rajouter des stigmates, c'est de donner une voix à des êtres humains, quoi, comme si c'était nous un peu aussi.
Thibaut,
c'est un peu ça, je pense.
Thibaut Potvin, quand vous avez lu la première fois le texte d'Ismaël Jude, et puis on va dire le nom de votre co-auteur,
Alexandre Nonot,
tout de suite, vous y avez cru?
Alors, c'était pas une question forcément de croire, c'est plutôt une question de... Enfin, moi, je l'ai lu, c'est une fiction, ça doit être une fiction, ça doit fonctionner comme une fiction, et de ce point de vue-là, tous les ingrédients étaient réunis pour enregistrer une belle fiction. Et puis, on l'a un petit peu évoqué, avec un petit peu les... On se donne aussi des marges à l'enregistrement pour il y a aussi une licence créative, on va dire, au niveau de cette réalisation, cette mise en onde, cette direction d'acteur qu'on a évoquée. Et c'est évident que là, on avait un texte. On a pris deux auteurs qu'on connaît et dont on sait le talent et dont on savait, en plus avec le travail qu'on leur a demandé de faire en immersion, que on avait un matériau excellent et voilà, qu'on avait une histoire qu'on a envie d'écouter jusqu'au bout.
C'est vrai que pour nous, on parle de l'immersion parce qu'on l'a évoqué au début, mais c'est très, enfin, ce qui était très important pour nous sous Quart Catholique, c'est que tout le monde puisse se reconnaître dans la fiction. Donc le grand public, mais aussi les personnes en interne du Secours catholique.
Ouais. Les bénévoles.
C'est aussi un bel
hommage à tous les bénévoles du Secours
Exactement.
catholique.
Et il fallait absolument que en interne, j'allais dire, que dans l'association, ce podcast soit aussi bien accueilli. Parce que sinon, voilà. Et on voulait pas faire un reportage, mais on voulait pas non plus être déconnecté de la réalité. Et ça a été très important pour nous que Ismaël et Alexandre acceptent d'aller passer une semaine d'immersion à la rencontre des personnes. Ouais. Et je pense que ça a transformé leur regard, comme ils l'ont dit aussi. Mais c'est vrai que c'était, pour nous, c'était très important que cette fiction, elle soit la plus sincère possible. Voilà.
Et ce podcast, Fraté, est-ce que vous l'avez fait écouter à des personnes accueillies par le Secours catholique ? Quelle était leur réaction ?
Alors, on l'a fait écouter et on a d'ailleurs fait écouter à pas mal de personnes, notamment du côté de Toulouse et de la région toulousaine qui ont participé aux immersions. Et ils ont été bluffés. Et en fait, c'est ça qui est assez impressionnant.
Ils se sont reconnus.
Alors, les bénévoles ont été hyper fiers. Hyper fiers que leur engagement soit mis en valeur de cette façon-là. Parce que, d'un coup, on voit tout ce que ça fait. Enfin, voilà, c'est un engagement total. Et donc, ils ont été extrêmement touchés de cette incarnation. Et les personnes accueillies se disent, mais c'est ça, quoi. Quand j'ai passé la porte la première fois... J'ai été embarquée dans tout ce bruit, tous ces gens qui venaient déjà depuis un moment, donc qui se connaissaient entre eux. Comment j'allais m'insérer dans ce mouvement humain ? Enfin voilà, et c'était formidable. Honnêtement, c'est le plus beau compliment qu'on nous a fait, c'était ça. Hein, c'est effectivement que les personnes accueillies et que les bénévoles nous disent, on s'est totalement reconnus. Et en même temps, c'est toujours avec la magie en plus, quoi. Donc ça, c'est chouette.
C'est vrai qu'il y a un souci du détail, moi je trouve. Il y a tout un épisode sur quand on va à une distribution, alors des Restos du Cœur, il faut emmener une poussette, parce que sinon c'est trop lourd et on peut pas se débrouiller.
Oui, surtout quand... Surtout si on n'y va pas en voiture, parce que Pauline n'a pas de voiture, donc elle doit y aller en transport, et c'est pas juste à côté. Donc elle doit... Et puis il y a cette scène comique où deux autres personnes accueillies ont un débat sur le bus qu'il faut prendre. Elles sont pas d'accord, donc c'est deux vieilles dames, et elles se disputent. Mais non, c'est pas ce bus-là. Mais donc on essaie toujours de mélanger un peu des aspects comiques avec des choses qui sont très, pour autant, très terre à terre. Elle doit aller assez loin en bus et revenir, donc il lui faut quelque chose pour transporter le colis. Et il faut qu'elle soit revenue à l'heure pour son gamin qui sort de l'école, etc. Donc c'est des soucis à la fois très concrets qu'on emmène dans la fiction. Donc il y a aussi des scènes complètement oniriques où ça part dans l'imaginaire, mais où on reconnaît quand même des éléments du réel. Quoi.
Thibaut Potvin, quand on écoute ces podcasts, il y a une petite clochette qu'on entend dans les épisodes qui permet de différencier les scènes.
C'est les espaces qui sont...
Ça fait penser aux disques qu'on écoutait quand on était enfant. Oui. Il fallait tourner la page. Oui,
alors, Charlène va être ravie parce que c'est exactement ça qu'elle voulait. Donc,
C'est vrai que c'est un petit peu une manière de déclencher un peu des choses dans notre imaginaire et un mode d'écoute un petit peu comme ça. On est dans de la fiction, on raconte une histoire et il y a cette ponctuation.
Moi, j'ai l'image d'une porte qui s'ouvre aussi.
Oui, aussi.
Ah, oui. Une porte, on passe d'un endroit à l'autre.
En tout cas, c'est très, très poétique, s'il vous plaît. C'est fraté, c'est poétique et politique à la fois. Ouais. On passe du rire aux larmes, vraiment. En tout cas, si vous avez la larme facile, comme moi, on passe du rire aux larmes. C'est vraiment une très belle expérience. Finalement, pour le secours catholique, maintenant, ça fait presque 6 mois que le podcast est lancé. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience?
Alors, déjà que c'est possible, parce que voilà, on a, comme l'a dit Thibaut tout à l'heure, c'est quand même un travail qui nous a pris une petite année, hein, quand même.
C'est un an de boulot, voilà.
C'est un an de boulot, parce qu'il faut, effectivement, qu'on définisse le projet ensemble, que les auteurs partent en immersion, qu'ils écrivent, qu'on arrive à faire le casting, qu'on arrive à trouver la date pour le studio d'enregistrement. Enfin bon, il y a pas mal de paramètres. Donc nous, pour nous, on est au début de l'aventure, c'est-à-dire qu'une fois que le podcast est lancé, on pourrait se dire « ouf, ça y est, c'est fait ». Et en fait, c'est le début.
Maintenant, il faut le faire vivre.
Voilà, il faut le faire vivre, il faut le faire connaître, il faut le partager. Et ça, pour nous, c'est vraiment très important parce que comme l'objectif est de faire changer de regard les personnes sur les personnes qu'on accueille et sur aussi l'engagement au Secours catholique, évidemment, je trouve que voilà, pour nous, c'est le début du chemin. Donc, on essaye de le partager le plus possible. On est ravis d'ailleurs que RCF nous accompagne sur ce projet parce que pour nous, c'est extrêmement important d'aller à la rencontre du plus grand nombre, de le partager et de faire en sorte que les personnes qui l'écoutent et qui sont touchées partagent également. On est sur toutes les plateformes. On a eu la chance que Deezer mette en avant ce podcast aussi. Donc on est.
On n'a pas dit, heureux. Quand même, c'est 8 épisodes d'une quinzaine de minutes chacun. Ouais. On peut les écouter un par jour ou on peut écouter tout d'un coup si on est très glouton comme moi. On peut aller sur rcf.fr. On approche de la fin de l'émission, Melchior, et moi, je voulais qu'on termine par un personnage qu'on a juste cité à un moment. C'est Oui-Oui.
Oui.
C'est simple d'esprit, c'est simplet, mais c'était important que des personnes fragiles psychiquement soient représentées.
Ah oui, complètement. Et puis c'est un personnage extrêmement touchant et qui était aussi un défi pour le comédien parce que
Christophe Méné.
Oui, exactement. Et qui s'exprime que en disant oui. Et puis c'est se faire comprendre malgré cette déficience du langage. Et il a son rôle aussi dans cet esquif, dans ce lieu. Il intervient, il a son rôle à jouer. Quoi.
On a tous une place et un rôle à jouer, c'est ça. Voilà, Melchior, il faut qu'on s'arrête, c'est ça?
Ah oui. Enfin, si vous avez une petite question,
je sens que Thibaut Potvin veut encore dire quelque chose pour conclure. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire?
Non, comme a dit Sandrine, le podcast ne s'arrête pas à un moment. Il continue de vivre sa vie, il continue de toucher des audiences. Depuis sa sortie, il continue de conquérir une audience sans s'arrêter. On sent qu'il y a un bouche à oreille extrêmement favorable parce que voilà, ça se propage partout, en France, ailleurs, à l'étranger. Tout le monde l'écoute et donc voilà, on espère que vos auditeurs également l'écouteront.
Et voilà, écoutez Fraté, vous allez, c'est rapide, c'est sur le site, sur rcf.fr. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission.
Sandrine Verdelant, Thibaut Podvin, Ismaël Jude Fraté, ce podcast réalisé par le Secours catholique et dont nous sommes partenaires et fiers d'ailleurs d'être partenaires puisque nous, on permet la diffusion notamment sur rcf.fr. Et on va se demander, bah tiens, comment ça se passe concrètement dans un accueil de jour? On va en discuter avec nos trois invités qui vont nous rejoindre dans un instant pour la seconde partie de Je pense donc j'agis. Vous avez toujours la parole au 04 72 38 20 23 pour nous dire si vous êtes bénévole d'ailleurs au Secours catholique. Parlez-nous de votre engagement et des personnes que vous rencontrez. À tout de suite sur RCF.